Inouï.
Une émission de création et documentaire sonore.
Par les étudiants du Créadoc
d'avant
et d'aujourd'hui.
Pour ce nouvel épisode d'Inouï, le Master 1 de cette année est à l'honneur, puisque nous vous proposons essentiellement des réalisations sonores de la dernière cuvée du Créadoc.
Inouï.
Documentaire.
Pour commencer, nous remontons le temps, celui que les moins de 20 ans, et même plus, ne peuvent pas connaître. Autour d'une leçon de couture, Simone Manac raconte le temps de son enfance à Camille, sa petite fille. Vous écoutez « Au fil de Simone », un documentaire de Camille Alperin.
Garde ton fil toujours devant toi. Hein, ouais.
Alors, je tiens avec mon pouce, je passe au milieu et j'avance un peu.
Oui, là, et tu tires devant toi.
Faut toujours garder son fil devant soi.
Oui.
C'est la règle.
On va appris comme ça, tu sais. Là, hop.
Je me rappelle, j'avais pas tout à fait 3 ans. Hein. Il y a une voiture qui est venue me chercher, une superbe voiture, tu sais. Ça devait être une Mercedes, hein, je pense, à l'époque, oui. Il y avait, tu sais, comme un truc là, sur la voiture, là. Et on m'a déposé donc à Saint-Gildas-de-Ruys. Je suis née le 4 janvier 1927 à Kermaté. Voilà, bon, ça c'est tout ce que je sais.
J'ai toujours su que ma grand-mère n'avait pas vraiment de parents. Enfin, qu'elle ne les avait jamais connus. Mais en fait, je ne savais pas du tout ce qu'avait été son histoire. C'est comme si... Une fois partie de l'orphelinat, l'enfance de ma grand-mère était restée coincée entre les murs de cette communauté. Nous sommes donc dans l'appartement très soigné de ma grand-mère. Cet appartement où il fait toujours chaud et où ça sent toujours bon la lessive. Et dans le salon, une vue sur la rade de Brest. Ce bout de mer que l'on aperçoit au loin, c'est l'argument pour placer stratégiquement sa chaise et regarder le spectacle de chaque bateau qui passe. Tel un grand événement.
J'ai mis mon dé. Moi, sans dé, je peux pas travailler, tu vois. Voilà. Tu vas mettre un dé? Non, tu ne sors pas.
Ah, si, peut-être.
Il y en a un là, un petit, non? Attends. Oui, pour pousser, quoi, tu sais.
Oui, parce que sinon ça fait mal de pousser l'aiguille.
Saint-Gildas-de-Ruys, c'est une communauté qui s'appelait, parce que c'est plus pareil maintenant, les religieuses de Saint-Louis. Alors, c'était un grand bâtiment, hein, avec un grand réfectoire, une grande salle de où on cousait, quoi, en somme, quoi. Hein. Mm-hmm. Et un grand dortoir, une grande cour, et il y avait quand même une salle de bain. Après, à 5 ans, donc, les religieuses m'ont dirigée vers Rochefort-en-Terre. J'étais très chétive hein, quand j'étais gamine. C'est raison de santé, quoi, tu vois, que j'ai été à Rochefort-en-Terre. Oui, de 5 ans à 15 ans.
À peu près. Et après, à 15 ans, t'es retournée ?
Retournée, oui.
À Saint-Gildas-de-Ruys.
À Saint-Gildas-de-Ruys.
Oui, je suis des mains, moi. Oh non, ça refait un nœud. Oh là là.
C'est peut-être parce que le fil est trop long, peut-être aussi. Ah. Pour toi, qui débute. Hein ?
Comme Rochefort-en-Terre était très pauvre... Donc, il fallait que nous travaillions, quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'on nous a appris à coudre des petites chemises, des petites brassières, des combinaisons, des draps, enfin, à broder, quoi, tu vois. C'est comme ça que j'ai appris, mais toute petite, petite. Hein. Je devais avoir 5 ans, à peu près, quoi, 5-6 ans. Je me vois encore sur mon petit, tu sais, un petit banc comme ça, à côté de la religieuse, quoi.
Assez serré pour que ça fasse plus joli.
Mais tu es plus droit maintenant.
Oh, mais c'est pas grave. Hein? Tu peux faire un rond, tu peux faire un carré, tu peux faire... Hein?
On était toujours, toujours, toujours habillés. La même forme de robe. Noir. Bleu marine. Écossais. L'été. Léger, quoi, tu vois. Mais alors, toujours le col Claudine. C'est comme ça. Si bien qu'on nous remarquait partout, quoi. On était peut-être 25 ou 30. Mais il y en avait qui venaient, tu vois, peut-être à la suite d'une séparation ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Mais qui allaient chez leurs parents, qui n'étaient pas orphelines sans sous comme nous, quoi, tu vois. Et il y avait même, je me rappelle, une dame de Quimper qui était venue. Elle avait une fille handicapée, et pour moi, elle avait voulu la cacher, tu sais, puisque c'était une bourgeoise. En fauteuil roulant déjà à l'époque, je sais pas, elle avait mon âge, quoi, tu vois. Et moi, j'avais un plaisir fou à aller la promener. J'étais toujours la première à aller la promener. Et alors, toute l'année, il y avait des filles qui habitaient très très loin, qui étaient à l'école de Saint-Gilda. Alors, elles venaient prendre leur repas dans le même réfectoire que nous, juste déjeuner à midi. Mais nous, les orphelines, on était d'un côté, et les pensionnaires étaient de l'autre côté. Alors les pensionnaires avaient des bonnes choses, ça sentait bon. Elles payaient, hein, c'était normal, quoi. Et nous, alors, bon, on avait du riz, on avait des lentilles, on avait des pommes de terre. Qu'est-ce qu'on avait encore? Le goût de la viande, je ne savais pas ce que c'était. Les œufs, non plus. Le beurre, non plus. C'était trop cher, quoi, tu vois. La seule chose qu'on avait, c'était des compotes, tu sais, mais dans des seaux, tu sais, énormes, là. Enfin, juste. Et le matin, comme petit déjeuner, on avait une soupe. C'est tout. Même à l'église, on n'était pas mélangés. On était dans un coin. Les orphelines. C'est dur, hein. Tu vois, tout ça, c'est comme si on a, je sais pas moi, on n'était pas responsable de ce qu'avaient fait nos parents quand même, je trouve. Hein?
Regarde, comment tu trouves?
Pas mal. Mais là, je suis contente, t'as bien fait. Enfin, t'as fait des grands points, mais bon.
Et toi, c'est tout petit, t'as fait plein de petits.
Non, mais avant, je cousais tellement vite, ça faisait...
Il y avait une école, hein. Une école publique, mais moi, j'ai jamais été à l'école parce que j'étais toujours soit avec des crises d'as ou malade. Alors, c'était la supérieure qui me donnait des cours. C'est elle qui m'a appris à lire, c'est elle qui m'a appris à écrire. Peut-être pour ça que j'écris bien comme ça, hein? Oh, elle m'aimait bien, celle-là, hein? J'étais choyée avec elle. Ouais. Mais je n'ai pas suivi de cours de l'école. Enfin, elle me donnait les premières bases de l'histoire de France, je me rappelle bien, la géographie et tout ça. Mais enfin, pas de la grammaire, quoi, tu vois, pas les verbes, pas les...
Mais tu penses que toi, t'aurais pas pu aller à l'école ou tu penses que t'aurais pu?
Moi, je pense qu'on préférait sans doute me faire coudre, quoi. Après 10 ans, j'étais déjà à la tâche. On était devant leur lieu. Elle disait, bon, aujourd'hui, il faut que vous fassiez, par exemple, du jour-venise sur des draps brodés. Et bien, alors, il fallait faire tant la journée. Et les copines, alors, qui avaient un mal fou à coudre, parce qu'elles avaient les mains, tu sais, moites, elles avaient pour mettre du talc, tu sais, il y a des personnes comme ça, hein. Et bien, c'est moi qui faisais, pour pas qu'elles soient punies, quoi. Et puis, bon, fallait travailler, quoi, tu vois. Il n'y avait pas de bruit, hein, tout ça. Alors, moi, de temps en temps, tu sais, j'avais envie de faire rire les... Alors, il y en avait une qui me disait, « Allez, Simone, fais le lapin !» Alors, je faisais le lapin, alors, le fou rire partout, quoi. Alors, les religieuses... Qu'est-ce qui se passe encore, hein? C'est encore Simone, hein? Alors, Simone faisait comme si rien n'était, quoi. Puis, dès qu'elle retournait...
Ah, tu faisais bouger ton petit nez, c'est ça?
On me demandait de le faire, je le faisais, quoi, puisque moi, je croyais que c'était la vie, c'était comme ça, quoi, tu sais. Hein, faut dire les... Hein. Bah oui, autrement, bah, l'argent ne rentrait pas pour nous donner nos petites lentilles, nos petits haricots, nos nodrines, l'huile de foie de morue, et tout ça, tu vois. Ouais. C'était à peu près, je pense, toutes les semaines que... qu'elle recevait des paquets comme ça. Et selon c'était pressé ou pas, quoi, tu vois. Par contre, il y avait quelques fois, il n'y avait rien, quoi. Alors, il y avait un Saint-Joseph. Alors, les religieuses lui tournaient le dos. Moi, je demandais, mais pourquoi que Saint-Joseph, on lui a tourné le dos? Ah, parce qu'il ne nous a pas apporté de travail. J'y croyais.
Ah oui, et du coup, ça avance.
Ça, c'est le point de tige, quoi, tu vois.
D'accord.
Alors, tu vois, comme ça.
Tu piques en avant et tu reviens en arrière.
Voilà.
Et hop, t'avances.
C'est pas difficile, ça.
Ah oui.
Et à Saint-Gilda, bon, ben, moi je cousais, mais il y en avait d'autres qui allaient travailler dans les jardins, tu sais. Ou d'autres, enfin, dans les champs, quoi, ramasser les pommes de terre, enfin tout ça. C'était déjà mieux, Saint-Gilda de Ruisse. Hein. C'était. La communauté avait un parc. Il y avait tous les fruits, tous les légumes, il y avait des vaches, il y avait un énorme verger. Donc, tu comprends, moi, coquine comme je suis, eh bien, quand je passais devant le verger, je ne pouvais pas m'empêcher, hein, de piquer une poire ou une pomme et tout ça, hein. Et alors, l'aumônier, il faisait la messe tous les jours, oui, de la chapelle. Alors, il fallait aller à la confesse à peu près tous les 15 jours. Qu'est-ce que tu veux? À confesse. Tu es dans un orphelinat. On voit rien. On voit les religieuses, on voit les filles. Bon, alors le curé, l'aumônier, il me disait... Ah bon, alors, est-ce que tu as eu des mauvaises pensées? Des mauvaises pensées? Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, les mauvaises pensées? Mais tu sais, on ne peut pas, comme tu es en dehors de tout, tu ne peux pas. Hein? Et puis, bon, et tu n'as pas été méchante avec tes copines, tu n'as pas menti, tu n'as pas... Ah non, 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 je disais. Tu n'as pas été gourmande non plus? Non, non, non. Et voler. Est-ce que tu n'aurais pas volé? Oh non, je dis. Ah, il me dit si. Je t'ai vu voler des poires dans le... Dans... Parce qu'il avait juste sa chambre. Moi, je, tu sais, je disais, mais c'est pas volé, ça, quand même. Ah, il me dit si, c'est volé. C'était pas à toi. Hein, c'était à l'orphelinat. Moi, je voyais pas ça comme volé. C'est bizarre, hein, quand on est gamin. Moi, j'avais l'impression que j'étais chez moi, et puis que comme c'était mûr, bon, je passais, oh, une belle pomme, et puis boum, je mangeais ça avec, tu sais, avec amour en plus. Et puis, bon, j'ai recommencé après. Hein. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore ? C'est Gilda. Oh là là. On n'était pas au courant de rien. C'est ça que je, tu vois, que je trouvais. Autant on nous faisait des trucs de politesse, de comment se tenir à table, comment, tu vois, plein de trucs comme ça, mais au point de vue éducation sexuelle, rien. On n'avait pas le droit, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te dis, moi, j'étais persuadée que les enfants venaient par le nombril, alors c'est pour te dire. Moi, je ne sais pas, j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net vers mes 15 ans, tu vois, 15-16 ans. Là, où on se pose plein de questions, quoi, tu vois. Régulièrement, j'avais une visite au parloir. On m'appelait, on me disait, bon, Simone, tu as une visite au parloir, quoi, tu vois. Et c'était une dame qui venait me rendre visite, c'était une grande, grande dame. Et alors elle me demandait, est-ce que tu es bien ? Il te manque quelque chose ? Enfin, elle me posait plein de questions, quoi. Ben, je disais non, quoi. J'ai dit non, je suis bien, tu n'as pas froid, tu n'as pas chaud, enfin bon, est-ce que tu manges bien ? Ben oui, tout ça, quoi. Mais je n'ai jamais su qui c'était. Je me rappelais son nom. Mm-hmm. Je me rappelais son nom. Madame Guillemin, elle s'appelle.
Et, mais bon, ce qui est bizarre, c'est que le terme orpheline, on dirait que c'est comme si tu n'avais pas de parents.
Bah oui.
Pourtant, toi, au final, tu as su après qui étaient tes parents. Oui. Mais...
Et justement, il paraît que. Enfin, moi, je ne sais pas hein, non plus, parce que bon. Mes parents, soi-disant, ne m'auraient pas abandonné. C'est cette dame, Madame Guillemin. Certainement avec raison, hein, je pense. Parce que mon père était donc tout tordu, il faut dire les choses, tout. Et ma mère avec. Bon, est-ce qu'elle avait ces enfants-là du papa ou qu'elle allait chercher ailleurs ? Je n'en sais rien, je ne peux pas te dire. Hein. Si, René m'a dit qu'il était sûr, lui, un de mes frères, le dernier, là, qu'il était sûr. Qui connaissait son père biologique. Tu vois, mon père et ma mère ont fait ça, mais sur le nombre de frères qu'avait mon père et des sœurs, ils auraient pu prendre de nos nouvelles. Non, jamais. Jamais. T'as l'impression d'être... que t'es toute seule, quoi, tu vois.
Tu veux boire un peu d'eau ? Je t'ai amené à la...
Ah oui. Oh, je veux bien, parce que j'avais soif tout à l'heure. Mais c'est pas si mal que ça.
Mais à part que toi, c'était droit au début. C'est que je comprends pas. Enfin, là, ton point là, il est droit.
Oui.
Pourquoi moi, c'est pas droit ? Parce que je fais des gros points, moi. J'ai envie d'aller trop vite.
Oui.
J'ai pas la patience. Toi, tu fais des petits points.
La couture, c'est ça, quoi. Faut de la patience, quoi, tu vois.
Mmh. Allez, je vais essayer de faire des petits points pour finir.
Il y avait certaines filles qui pouvaient, par exemple, si elles avaient envie de faire des études, et elles étaient dirigées dans une... Bah, pas une fac, mais si, une fac, quoi, si tu veux. Mais privée. Une fois qu'elles avaient terminer tout ça, il fallait qu'elles donnent 7 ans, quoi, tu vois. 7 ans à la communauté. Et si elles avaient envie de partir, eh bien, elles étaient obligées de payer, quoi, si tu veux. Mmh. Alors moi, naturellement, on m'avait convoqué. Moi, là, j'étais chippie, hein, tu sais, mais bon, je devais se dire, oh, Simone, ça va être sans doute une bonne religieuse, quoi. Moi, religieuse? Ah non, jamais. Non, c'était pas mon truc de... Non, non. Elles auraient aimé, peut-être. Peut-être qu'elles sentaient quelque chose en moi, tu sais, pour faire du bien aux enfants ou quoi, je sais pas. Non. Si bien que, bon, ben, tu vois, je sais juste lire et écrire, hein, c'est tout, ouais. Ouais.
T'as vu, je suis petit, hein?
Oui. C'est joli, oui. Tu vois, si tu veux faire les initiales... Oh, dis donc, c'est joli, hein? C'est parfait. Et alors, mon départ de Saint-Gilda, on t'appelait au parloir, et la supérieure me dit, bon, ben écoute, tu as eu une petite sœur à la maison. Une petite sœur? Ah bon, j'ai dit. Et alors, parce que je me demandais, où aller? C'est ma hantise, c'était ça. Je dis, mais je vais aller où? Bah écoute, tu iras déjà t'occuper de ta petite sœur, hein? Et puis, tu verras après, quoi. Alors, donc, le lendemain matin, on m'a fait mon petit baluchon, tu sais. Bon, juste de quoi, tu sais, de quoi, comment... me changer, quoi. Et ce que j'avais sur le dos et mes chaussures.
On est tous aujourd'hui réunis autour de toi, mamie. C'est que l'on a quelque chose à fêter. 90 balais, toute la famille et aussi les amis sont venus là pour toi, car t'as voulu et tu as réussi un grand moment de joie. La mamie des Vanac, elle est bien gentille, elle nous fait toujours des petits plats et nous recoue toutes nos chaussettes. On veut dire qu'on aime beaucoup. C'est notre mamie vraiment parfaite. La mamie des Vanac, elle s'appelle Simone. Et on la voit toujours très bien habillée. Ses enfants l'aiment bien, ils sont bien élevés. Et nous on l'aime bien, notre amie bretonne.
La mamie
des Vanac, elle est bien gentille.
C'était De petite fille à mamie, un documentaire de Camille Alperin. Remerciements à ma grand-mère, Simone Manac, Marie Ferrol, Catherine Amiot, ainsi qu'au collectif Manac, Nolwenn, Kristen, Anne, Rémi et Christian, pour leurs chansons.
Inouï. Une émission de création et documentaire sonore par les étudiants du Créadoc, d'avant et d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec nous sur Inouï. En naviguant sur la toile, Marie Roland est allée à la pêche aux commentaires des 15-18 ans du forum jeuxvideo.com. Elle dresse là un triste aperçu, celui du rapport qu'ont bon nombre d'adolescents à la sexualité et aux relations filles-garçons.
Adaptation radiophonique.
On écoute Morceau choisi, une adaptation de Marie Roland.
Bonjour, j'aimerais savoir quand une meuf te regarde dans les yeux, ça veut dire qu'elle veut ta bite ?
Oui, c'est un signe. Embrasse-la.
Si elle louche, oui. Je pense que tu devrais la baiser. Salut. Alors, voilà ma situation. Depuis quelques semaines, il y a une meuf grosse qui me drague. Vous pensez que ça vaut vraiment le coup que je mette mon sgeg dans sa graisse ?
Ouais, vas-y frère. Tester et approuver les BBW.
Non mais sérieux, j'ai peur qu'elle m'avale. J'ai besoin d'avis, s'il vous plaît.
Bah, je l'ai fait avec une BBW il y a pas longtemps. Elle m'a donné rendez-vous à la sortie d'une piscine. Je l'ai baisée, ça s'est bien passé. C'est rigolo de voir les bourrelets se balancer.
Et sinon, son cul, il sentait pas trop la merde ? Et ça chatte pas trop le ton ?
Dans 2 semaines, je fais une soirée pour mes 15 ans. Et j'ai invité 10 de personnes. La fille que je kiffe sera présente et dormira sur place. Filez-moi des idées pour que je me rapproche d'elle. Merci d'avance. Salut.
Bah, viole-la dans son sommeil. Surprise et plaisir garantis.
Ma copine aimerait bien se faire violer. Enfin, pas vraiment violer. Elle aimerait que je la violente.
Bah, viole-la. Qu'est-ce que t'attends ?
Ça existe, une fille vierge à 17 ans ?
Pécho les filles de 15 à 25 ans, c'est très très facile. Quelle est la solution ? C'est très simple. C'est tout simplement l'argent. La plupart des filles de 15 à 25 ans gagnent 0 euros par mois. Beaucoup n'ont pas le permis de conduire. Du coup, vous avez la voiture, vous avez l'argent, vous aurez les filles. C'est aussi simple que ça. Elles ont besoin d'un mec qui fasse le taxi pour elles et d'un mec qui lui paye ses sorties. Resto, boîte de nuit, manger du midi, les clopes, le cannabis, l'alcool, etc. Qu'en pensez-vous ?
J'ai 13 ans et il n'y a pas longtemps, je suis sortie avec un mec plus âgé que moi. Ça n'a pas duré. Depuis, les mecs disent que je suis une pute, mais m'aiment bien quand même. Le pire, c'est que ça me dérange pas. En fait, je m'en fous. Et puis, tous les vendredis après-midi, je vais chez mon meilleur ami, tout l'après-midi. Il invite souvent ses potes. Ça finit souvent dans sa chambre, tout le monde dans le lit, écolé serré. Nous sommes toujours habillés et tout, mais il y a un mec qui me met la main sous le t-shirt. Au début, je l'en empêchais, mais maintenant je le laisse faire. J'ai l'impression de plus avoir d'honneur. Comment y remédier ? Et faire comprendre à tous que je suis pas une pute ?
Les filles d'aujourd'hui sont toutes des putes, sans exception, et c'est bien dommage.
Bah oui, t'es un peu une pute.
Suicide-toi.
Aidez-moi. Je dois pourrir la réputation d'une pute. J'ai besoin d'idées. Je veux qu'elle pleure à chaudes larmes une fois que tout le monde lui aura tourné le dos.
Moi, j'ai une super astuce. Tu prends une photo d'elle et tu fais un montage avec Photoshop. Genre, elle s'est pris une faciale.
Bah frappe-la.
Je veux la faire souffrir, mais je frappe pas les gonzes. Donc il me faut quelque chose de plus... fin.
Tu la violes sans la frapper.
Dans mon lycée, il y a une meuf qui fait tout. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle est grave belle, et j'ai la possibilité de me la faire. Le problème, c'est qu'elle parle trop de ça avec ses amis. Donc si mes potes la prennent, ils vont se foutre de ma gueule. Car tout le monde déteste cette fille. J'attends le week-end des vacances pour aller la voir, ou bien demain après-midi.
Prends-la sur son bureau en plein cours de maths.
Mais non, mon gars. Tu portes tes couilles, tu vas la voir, même s'il y a ses potes, et tu lui demandes si tu peux lui parler à part.
Le week-end des vacances, elle sera beaucoup moins stressée et beaucoup plus facile à pécho.
Et je ne l'aime pas, hein. Elle fait juste des trucs chez elle, tranquille. Du coup, j'ai envie d'en profiter.
Demain, je vais baiser une beurette. Elle m'a dit de la rejoindre chez elle, mais à 10h du matin. Le truc, c'est que je suis pas trop chaud pour baiser à cette heure-ci. Mais bon.
Frère, je baise des beurettes au moins une fois par mois.
La meuf, c'est une quoi ?
C'est une arabe. Mais je la connais vite fait. Ça a l'air d'être une chienne.
Pourquoi toutes les meufs bonnes sont des salopes ? Pourquoi toutes celles que je connais, sauf une, ont déjà baisé ?
Quand une fille avoue qu'elle n'est plus vierge, vous trouvez pas que ça lui fait perdre une sacrée dose de charme ?
Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi on dit qu'une fille qui parle de cul, c'est une salope.
Parce que c'est une princesse.
Comme le dit le dicton, une clé qui ouvre toutes les serrures est une bonne clé.
Bah, c'est parce que les mecs ont un esprit extrêmement pervers de base, là où les filles semblent en général avoir un esprit plus innocent.
Ça retire tout le charme d'une fille quand elle parle de cul.
Ah, les grosses putes.
Et du coup, une fille qui fait souvent l'amour, c'est une salope aussi ?
Exactement.
Ça dépend. Si c'est avec plusieurs mecs, ouais. Sinon, non.
Si c'en est une qui change de mec toutes les semaines, c'est bien évidemment une salope, oui.
Les salopes ! Manifestez-vous, s'il vous plaît !
Ce soir, grosse soirée, et il faut que je pécho de la demoiselle. J'ai besoin de vous, amis du forum 15-18.
Bah, achète du GHB.
Bon, je précise, j'ai 15 ans, bientôt 16. Tout s'est passé hier dans un attroupement, on était tous serrés. Une fille a eu le malheur, ou le bonheur, d'être tombée sur mon chemin. Cette fameuse fille me plaît, et donc je lui ai caressé le derrière. Le plus marrant, c'est qu'elle disait rien. Pire encore, elle me le tendait bien pour que je puisse toucher son cul. Je fais du sport avec cette fille, donc je me demande comment lui faire l'amour sans être en couple, sachant qu'elle est réceptive à mes avances.
Elle te laisse lui toucher le cul et tu te demandes encore comment tu vas la baiser ? Sors ta bite et agite la dos en bas, cette chaîne viendra à toi.
Putain, c'est chaud, sérieux. J'enfile des putes, mais j'arrive vraiment pas à oublier mon ex. Alors que sa mère, la pute, depuis juillet, je suis plus avec elle. J'en peux plus.
Y'a pas moyen que tu retournes avec ? Pourquoi ça a cassé ?
Je l'ai accusée d'un truc qu'elle avait pas fait, je l'ai insultée de pute, de chienne. Et depuis, plus rien, alors que je suis vraiment amoureux d'elle. J'ai beau lui expliquer que j'étais fou de rage, mais elle veut rien entendre.
Que pensez-vous des féministes ?
Pute.
Chieuse qui mérite la peine de mort.
Pute.
Chieuse qui mérite la peine de mort.
Morceau choisi. Une adaptation de Marie Roland. Distribution. Pierre Cassel. Clémentine Latelier. Dorian Niels Leclerc. Raphaël Raffort. Lorenzo Napi et Pauline Tipré.
Inouï. Inouï. Inouï.
Où que vous soyez, là, arrêtez-vous et écoutez un instant. Qu'entendez-vous ? Est-ce que vous entendez le silence ?
Vous êtes sur Inouï.
Bastien est sourd. Sa femme, Anaïs, est entendante. Dans ce documentaire, ses mots à lui nous parviennent à travers sa bouche à elle. Une situation peu banale qui apporte un autre regard sur la surdité et au-delà, sur le monde sonore qui nous entoure.
Documentaire.
Pareil pour le vent, hein, il peut y avoir une petite brise et du coup, le signe est fait de manière assez lente. Et puis si vraiment il y a du vent, le signe prend de l'amplitude et on rajoute le son en plus.
D'une voix et quatre mains. De Claire Messager.
Juste pour voir comment on s'assoit. Est-ce que vous, il faut que vous soyez en face l'un de l'autre ?
Je propose, nous on est sur le canapé, toi tu vas en face. Non, peut-être, ou là, hein, si c'est plus simple, peut-être.
Donc Bastien, là,
pour la technique, toi, là. Ouais. Non, mais je vois. Qu'est-ce qu'il faut dessiner ?
Anaïs, ici.
Non,
et moi, là.
Ouais, on peut faire ça.
Du coup, Bastien, je vais mettre un micro pour vous. Si ça vous dérange pas.
C'est la première fois qu'on me propose ça.
Là, et moi.
Donc, je me présente. Je suis Bastien Dubois. Je suis née le 12 janvier 1983. J'étais un beau bébé, j'ai grandi, je suis un bel homme maintenant. Ça va les chevilles, c'est bien ? Hein ? Par exemple, voilà, ça c'est un entendant qui me connaît. Voilà, maintenant Madame Dubois peut se présenter. Donc moi je m'appelle Anaïs Dubois, je suis la femme de Bastien, je suis entendante. On s'est rencontrés il y a 7 ans et demi. Voilà, on s'est mariés, on est heureux, ça va bien. S'il n'y avait pas de micro, on aurait pu montrer la forêt, l'étang, tout ça à l'extérieur. Non, c'est pas possible, mais c'est sympa. Quand on s'est rencontrés, pour moi, c'était évident. Bah non, enfin, c'est sa langue, la langue des signes. Et puis, pourquoi il devrait s'adapter? Enfin, Bastien, de toute façon, signe uniquement. Sauf si, effectivement, il veut appeler le chat ou m'appeler moi. Moi, j'avais suivi des cours de langue des signes donc, quand j'étais en première année de fac. Je n'ai pas pratiqué pendant 6 ans. Je ne connaissais pas de sourds. Et ensuite, donc, on s'est rencontrés.
Peut-être, Bastien, tu veux rajouter ce que t'expliquais.
Au niveau de la langue des signes, la construction s'est faite tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est agréable. Et on est dans un niveau de langue des signes qui est vraiment bon au quotidien. Il n'y a pas un décalage dans ce que moi, Anaïs, je vais pouvoir comprendre et ce que Bastien va pouvoir exprimer. Les choses sont claires. Enfin, la compréhension se fait de manière assez simple. Du thé ?
Oui, qu'est-ce que vous prenez, vous ?
Thé ? Ouais, thé.
Allez.
C'est un peu comme le voyage, en fait. Quand on est dans une autre culture, on réalise plus sa culture propre. Bon, moi, j'ai voyagé et c'est vrai que je ne me suis jamais sentie française plus que ça. Et par exemple, donc, j'étais à l'autre bout du monde et là, je me sentais vraiment, vraiment très française. Et je pense que d'être avec un sourd au quotidien, je me rends compte que c'est encore plus d'être entendant. Tout ce qu'on perçoit et du coup, ce que Bastien ne perçoit pas aussi.
Bastien, par exemple, c'est vrai que je me rappelle, il y a 1 an ou 2 ans, on discutait donc, avec Anaïs. Il y avait une émission de l'œil et la main. Par exemple, il y avait un sourd qui expliquait, et moi-même, j'ai été bouche bée quand j'ai vu ça, que quand il allait aux toilettes, sa maman lui disait « S'il te plaît, fais attention, ne fais pas pipi directement dans l'eau, mais fais plutôt pipi sur la cloison. » « Ah bon, donc si je fais pipi dans l'eau, en fait, ça fait du bruit. » J'avais pas du tout pensé à ça. Plutôt pour ne pas gêner les entendants, en fait. Aussi, en discutant tous les deux, Bastien était traumatisé que dans les grandes surfaces et les magasins, il y ait de la musique, en fait. Du coup, c'était « Ah bon ? Mais à chaque fois qu'on rentre dans tous ces endroits-là, du coup, il y a de la musique. » J'avais pas cette notion-là du tout. Je me rendais pas compte que les entendants ont besoin de son. Ça les rassure, en fait. Ça, vraiment, je trouvais ça incroyable. Par exemple, mon frère, là, il a une voiture électrique. Oh, je me disais, c'est super, c'est doux, c'est confortable. Mais du coup, pour les entendants, c'est gênant parce qu'il n'y a pas de bruit. Donc en fait, on rajoute un petit bruit exprès pour donner une vigilance et que les personnes puissent se dire, il y a une voiture qui est là. Moi, je n'ai jamais entendu de voiture, ça ne me pose pas de soucis. C'est vrai que c'est bizarre, ça. Donc en fait, cet hiver, quand c'était tout gelé là et qu'on a pu marcher dessus, le proprio, il a été obligé de venir avec son tractopelle en fait. Il a cassé la glace pour que les poissons puissent avoir de l'air quand même. Et du coup, c'est ça, c'est que quand on jetait, nous on s'amusait à jeter des cailloux, en fait t'entendais un écho avec le fond, mais vraiment un bruit, un peu de fond marin, enfin un truc que t'as pas l'habitude d'entendre.
Bastien dit, je rajoute quelque chose aussi au niveau du bruit. On parle par rapport au bruit. Bon, là, c'est vrai que sur l'enregistrement, c'est sûr, on va entendre les bruits que je fais au niveau de la bouche. Et en plus, les entendants, à chaque fois, disent aux sourds, arrête, fais attention, tu fais du bruit. Parce que dans la culture sourde, pour s'appeler, on va taper sur la table. Donc, ça va faire du bruit. Les entendants vont dire « Oh, arrête, ça me gêne, tu fais du bruit. » Bah, excuse-moi, c'est ma culture sourde, c'est comme ça, j'en ai besoin. Ou quand on crie, pour s'appeler, on a besoin, il y a des vibrations, à ce moment-là, on va pouvoir ressentir les choses. Et souvent, du coup, on nous coupe l'herbe sur le pied en nous disant « Ben, non. » Bien sûr, quand on m'enferme, je fais attention, si je fais du bruit, voilà, si on me dit les choses gentiment, qu'il y a un respect mutuel, il n'y a pas de souci, évidemment. Donc, par exemple, bah voilà, Bastien dit « je ne savais pas que le lave-vaisselle faisait du bruit ». Donc, par exemple, si Bastien, il allume le lave-vaisselle, il vient me dire « j'ai allumé le lave-vaisselle ». Je dis « bah oui, je sais, j'entends ». Après, moi, de mon avis d'entendante, je trouve qu'il y a quand même une pollution sonore très très importante. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bruit tout le temps. Bien sûr, il y a pas... Enfin, c'est pas vraiment des avantages et des inconvénients, mais dans beaucoup de situations, je trouve qu'être sourd et puis pouvoir être coupé justement de cette pollution sonore, bah, c'est pas mal. Bastien rajoute, c'est intéressant parce que si en plus la télé on l'a plus depuis combien de temps? Oui, peut-être 5 ans. Avant, il y avait un problème au niveau des sous-titres en fait. Il n'y avait pas tous les sous-titres, il y avait des fautes d'orthographe, il y avait des choses du coup qui étaient laissées de côté. Donc moi j'avais laissé tomber. Puis après en regardant chez les personnes, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la télé, j'ai regardé les films avec les sous-titres, comment c'était. Là, au niveau des pubs, maintenant il y a les sous-titres. Et je me dis, c'est ça qu'ils disent vraiment? Ouais, d'accord, oui, c'est pas intéressant. Ça par exemple, c'était un avantage d'être sourd, tout ce que ce discours hyper infantilisant en fait, y a pas.
Oui, allô? Coucou! Oui? Bah, il n'y a pas longtemps, 10 minutes, je crois. Même pas, peut-être. Ah!
Mais oui, sinon, les sons, enfin, ça arrive souvent que j'essaye de traduire des sons, comment c'est. Parfois, c'est vrai que moi, je peut dire à Bastien, oh là là, qu'est-ce qui pleut? Parce que sur les Vélux, on entend la pluie. Bastien, il sait pas, enfin, si c'est la nuit, il saura pas s'il pleut. Moi, je vais dire, oh la vache, il pleut, ou il y a du vent. Du coup, souvent, moi, je donne ces informations-là. Voilà. Alors, après, Bastien va vérifier, il va regarder effectivement sur le Vélux, il va s'en rendre compte.
Le 14, il aime bien. D'accord. La 15.
Les vibrations, effectivement, j'aime bien. Par exemple, dans ma nouvelle voiture, il l'adore parce qu'il a mis un CD de musique techno et que les baffles sont super. Donc, en fait, il y a vachement de vibrations. Après, de quoi ça parle, etc. J'en sais rien, mais les vibrations sont vraiment fortes. Ça me plaît. Du son en langue des signes, il y en a tout le temps. Et puis, de la voix, des petits bruits de bouche. Il y a des onomatopées, dit Bastien. Donc la vitre s'est cassée, là. Quelque chose qui explose. Un pneu qui dégonfle. Quelqu'un qui pète. Une porte qui se claque. Quelque chose qui se casse. Un arbre qui se casse. Une branche d'arbre qui se casse. Quand on... Ah. Ouais, c'est une expression de sourd, donc il faut que j'arrive à la traduire comment... Quand on se fait avoir. Parfois, au niveau des expressions, il n'y a pas de voix. Mais des mouvements de lèvres vont être là quand même pour associer au bruit, en fait.
Je sais pas quelle heure il est. C'est 7h30. Toi, tu vas où aller ? D'accord, tu pars à 8h. Moi, je pars à 8h aussi. Ouais, ouais, Marie, est bien.
Oui, je crois il y a 4 ans, 4-5 ans à peu près, il y avait un match, donc l'équipe de volley sourd de France contre une équipe entendante. Et Anaïs était là dans le public, elle dit bah, c'est dégoûtant, les entendants, ils disent j'ai à chaque fois quand ils récupèrent le ballon, donc c'est plus facile au niveau de la stratégie. Mais les sourds sont hyper visuels. Donc, ils doivent compenser en regardant vachement, en fait, ce qui se passe. Donc, quand je joue avec l'équipe entendante, je vais dire « j'ai » ou je vais crier pour dire que ça va sortir, par exemple. Souvent, aussi, on dit que les sourds, en fait, visuellement, pour expliquer le signe, on dit que les sourds, ils ont des regards un peu comme les caméléons, en fait. C'est que les yeux ont une, on va dire, une souplesse de mouvement plus grande que pour les entendants.
Service. C'est pas son fort.
À droite.
Ça passe. J'ai entendu crier.
Oui.
Forcément, un entendant qui entend un bruit, eh ben, automatiquement, il va se diriger vers le bruit, en fait. Je pense que c'est le sens premier, en fait, quand on est entendant. Bastien rajoute, c'est vrai que, par exemple, par rapport aux discussions... Pardon, recommence. Je sais ce que tu veux dire, mais je l'entends. Je reprends tranquillement. Donc, c'est vrai... Alors, les amis, quand on signe, donc ils savent signer. Et puis, alors, à ce moment-là, quand le regard part, bah, ça m'énerve parce qu'ils sont au courant de la situation. Ils savent la nécessité d'être attentifs. Et souvent, après, quand ça m'arrive à l'extérieur, par exemple, au volley aussi, avec l'entendant, je fais exprès, je signe plus lentement. Mais du coup, dès que quelqu'un l'appelle et lui parle, et ben, automatiquement, il se retourne et il va parler avec l'entendant. Ça, vraiment, ça m'énerve parce que du coup, la situation, si je suis avec un sourd en train de discuter et qu'un autre va m'appeler, je discute jusqu'au bout et l'autre va pas pouvoir intervenir comme ça et couper la discussion. Je déteste les entendants profonds. Pourquoi ? Parce que les sourds profonds, souvent, ils ont vraiment un très gros niveau de langue des signes. On suit le niveau de surdité, en fait. Si la surdité est légère, du coup, ils vont plutôt être dans l'oralisation et peu dans la langue des signes. Et alors, du coup, un entendant profond va être pas du tout dans la langue des signes, alors qu'un entendant léger pourra l'être. C'est pour ça, du coup, un entendant profond, c'est quelqu'un qui sera pas en mesure, en fait, de s'adapter à une langue qui va être visuelle et qui va être obligé aussi de rester collé à du français.
D'une voix et quatre mains. De Claire Messager. Un grand merci à Anaïs et Bastien Dubois, ainsi qu'à Daniel Crumb et Jean-Philippe Navarre.
Ce soir, t'es prête à venir ?
Pourquoi pas ?
Parce que du coup, c'est vraiment à l'opposé de Poitiers.
D'accord.
C'est à une demi-heure d'ici, plus ? Une demi-heure ? Pardon, tu disais. Au niveau du bruit, oui, il y a pas mal de bruit par contre. Peut-être ça peut être sympa. T'entendras la transpiration. Non, ça s'entend pas la transpiration. Ouais, c'est ça.
Pour terminer cette émission, nous quittons définitivement les mots pour laisser place au voyage sonore et à l'imaginaire avec une création de William Gloria.
Inouï.
Inouï.
Une émission de création et documentaire sonore.
Par les étudiants du Créadoc
d'avant
et d'aujourd'hui.
Il arpente les rues d'Angoulême, laisse traîner ses oreilles et écoute les bruits trouvés au hasard d'une rue ou d'une église. Entremêlant des sons réels et désincarnés, nous plongeons dans un imaginaire, pourrait-on dire, souterrain. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, oubliez tout et laissez-vous porter. On écoute « Autour d'un écho » de William Gloria.
Thank you.
autour d'un écho, une dérive de William Gloria.
Inouï. Inouï.
Notre voyage radiophonique s'achève là. En attendant nos prochaines retrouvailles, laissez vos oreilles prendre l'air et partir à la conquête des sons qui vous entourent. À bientôt, même heure, même monde, pour de nouvelles aventures sonores avec Inouï.
Création et documentaire sonore.
Paysage sonore. Inouï.
Inouï.
Une émission de création et documentaire sonore.
Par les étudiants du Créadoc
d'avant
et d'aujourd'hui.